Enquête, instruction, tribunaux, condamnation. L'industrie du médicament devant ses juges. Bienvenue dans le podcast consacré aux grandes affaires de l'industrie pharmaceutique. Bienvenue dans Pharma Affairs.
Bonjour, je suis Jean-Yves Méret, animateur de ce podcast, et dans cet épisode, je suis avec le docteur Martine Pérez, journaliste médical, et maître Christophe Hénin du barreau de Paris. Nous allons revenir sur une affaire qui a éclaté il y a maintenant 40 ans.
Le premier titre à la une de l'actualité aujourd'hui, l'affaire du Distilbène, un médicament qui fut largement utilisé entre les années 50 et 70 pour faciliter les grossesses délicates afin d'éviter l'interruption de ces grossesses, justement. Un rapport met aujourd'hui en cause ce médicament qui aurait pour conséquence une certaine forme de cancer du vagin chez les filles dont les mères ont utilisé ce médicament, avec des conséquences également sur la grossesse éventuelle de ces enfants.
Notre invité est le professeur Philippe Deruel, chef du pôle gynécologie-obstétrie au CHRU de Strasbourg et secrétaire général du Collège national des gynécologues obstétriciens. Et puis nous aurons également au téléphone Martine, qui a aujourd'hui 60 ans et qui fait partie des 80 000 jeunes filles exposées au Distilbène. Tout commence donc le 16 février 1983. Dans le journal Le Monde, le docteur Escoffier Lambiotte publie un long article sur un rapport que vient de rendre public le docteur Anne Cabot. Cette jeune gynécologue de la MGEN a mené seule une enquête sur les cancers ovariens après avoir lu plusieurs articles inquiétants dans la presse médicale américaine.
Donc c'est en lisant des articles américains et en confrontant cela avec des cas cliniques que je me suis aperçu qu'en France, nous avions des problèmes semblables.
Ce médicament existe depuis 20 ans. On sait qu'il est parfois inefficace, voire dangereux, et on l'utilise quand même.
Alors, en tant que pilule du lendemain, il n'est pas dangereux puisqu'il s'agit d'interrompre une grossesse et non pas de la laisser évoluer. Par contre, à l'époque où nous le prescrivions, nous étions convaincus qu'il était efficace et qu'il n'était pas dangereux. Il a fallu 20 ans pour s'apercevoir des conséquences, car c'est le premier exemple d'un médicament qui a des conséquences non pas sur la personne à qui on l'administre, mais sur l'enfant de cette personne.
C'est une onde de choc. Et cette prise de parole dérange, car ce traitement a été administré entre 1950 et 1976 en France à 160 000 femmes pendant leur grossesse. On peut donc évaluer que 80 000 filles, 80 000 garçons ont été exposés. Professeur Philippe Deruel, le Distilbène était prescrit depuis des dizaines d'années. Pourquoi, comment et quels sont les risques qu'il présentait et pourquoi ces risques ont mis tant de temps à apparaître?
Le Distilbène, c'est un œstrogène et après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de recherches sur ces médicaments et l'objectif initialement était d'empêcher les fausses couches. Et c'était vraiment l'objectif initial du Distilbène, de permettre à des femmes d'avoir des bébés alors qu'elles faisaient des fausses couches. Puis de façon un peu surprenante, alors que ce médicament était suspecté de donner pas mal de malformations, en particulier chez l'animal, il a été autorisé, mis sur le marché et également, au-delà de ça, mis sur le marché pour un certain nombre d'indications, mais qui se sont très vite étendues. C'est-à-dire qu'on l'a prescrit pour d'autres maladies, la pré-éclampsie, les saignements pendant la grossesse, la menace d'accouchement prématuré, comme si c'était un peu le médicament miracle qu'on attendait et qui était efficace pour plein de choses et qui allait traiter toutes les femmes enceintes.
Et on ne connaissait pas les risques à cette époque.
Eh ben, c'est ça qui est très impressionnant, c'est que à la fois on connaissait les risques, on savait qu'il y avait des risques, en tout cas chez l'animal, et donc on n'a pas eu vraiment de surveillance. Et en plus de ça, très vite, très tôt, dès la fin des années 50, on a démontré que ce médicament n'était pas efficace. Et pourtant, on a continué de le prescrire, on l'a laissé sur le marché. Et puis c'est beaucoup plus tard qu'on s'est aperçu que les risques étaient bien plus graves que ce qu'on pensait, avec un risque d'infertilité, de malformation de l'utérus, de cancer. Alors au-delà des cancers de l'ovaire, c'est plutôt des cancers très particuliers du col et du vagin, cancers extrêmement agressifs. Et puis on en reparlera, une transmission aussi à la deuxième, à la troisième, voire peut-être à la quatrième génération.
Et donc quand l'affaire éclate, on voit évidemment que ça inquiète tout le monde. Docteur Martine Pérez, est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'une véritable carence? Parce que comme vient de nous l'expliquer le professeur Philippe Deruel, on connaissait les risques et pourtant en fait il n'y a aucun signe d'alerte qui apparaît dans la communauté médicale, ni même auprès des patients dans le grand public.
Oui, effectivement, on peut parler de carence, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce médicament, il a été inventé par un lord anglais qui était un chimiste en 1938. Et puis, il a pas voulu gagner de l'argent, il a pas voulu prendre de brevet là-dessus. Il a décidé de l'offrir à toute la communauté scientifique et également à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique s'en est emparée, s'est demandé bien à quoi ça pourrait servir, et ils ont décidé de manière totalement arbitraire de proposer ce médicament aux femmes qui faisaient des fausses couches. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de pharmacovigilance. Il y a eu des médecins américains qui, en 1953, ont découvert que ce médicament ne servait absolument à rien. Mais il a continué à rester sur le marché parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'agence du médicament, y compris en France. C'est à l'occasion de l'affaire du Distilbène, dans les années 70, que l'on a décidé de créer l'agence du médicament sous l'impulsion du docteur Alexandre. Il y a eu aucune pharmacovigilance avant la mise sur le marché, et on a mis très longtemps avant d'interdire ce médicament chez les femmes enceintes. À l'époque, finalement, les scandales sanitaires n'existaient pas encore. À l'époque, effectivement, on considérait que si un médicament marchait, c'est tant mieux. S'il ne marchait pas, c'était tant pis. Et puis surtout, il faut voir aussi que dans cette maladie, dans cet effet secondaire du médicament, les complications arrivent bien longtemps après la prescription femme enceinte, ce qui rendait les choses compliquées en l'absence, en plus, de système de pharmacovigilance.
Et puis, comme vous le dites, à cette époque, en fait, les risques étaient connus, moins connus. Mais en fait, quand le docteur Cabot explique, attention, ce médicament est dangereux, la communauté médicale, à l'époque, ne la suit pas. Et le ministère de la Santé lui-même, comme vous le dites, il n'y avait pas de pharmacovigilance. Il ne veut pas se montrer alarmiste. C'est ce qui explique notamment dans le journal 20h de PPDA. On va l'écouter tout de suite.
Et puisque nous parlons du ministère de la Santé, cette mise au point tout à l'heure à propos de l'affaire du Distilbène. Le ministère prend acte de l'enquête dont nous parlions hier soir, qui tente à confirmer les dangers de ce produit chez la femme enceinte, mais qui semblerait, fort heureusement, ajoute le communiqué, indiquer que le phénomène n'a pas la même ampleur ni la même gravité que dans d'autres pays. D'une manière générale, d'ailleurs, les milieux médicaux sont plutôt rassurants.
Mais à y regarder de plus près, on s'est sans doute montré beaucoup trop alarmiste.
Donc vous voyez bien qu'il y avait, de cette époque-là, de la part des pouvoirs publics, une sorte de refus de dire on ne va pas alarmer les citoyens, on ne va pas alarmer les médecins. Qu'en pensez-vous, professeur de Ruelle ?
Oui, c'est ça. Il y a à la fois cette volonté... Enfin, on regarde aujourd'hui le Distilbène avec le prisme de 2023, mais quand on se replace dans les années 70, la position est pas du tout la même. Il faut pas inquiéter les gens. On fait des choses qui sont totalement différentes. Le médicament ne peut pas être vu à ce moment-là comme quelque chose qui peut être aussi nocif. C'est la révolution. C'est quelque chose de formidable. On est dans la science, la chimie. Et donc, on a du mal à penser que ça pourrait être aussi néfaste. Alors évidemment, quand on regarde aujourd'hui, on se dit, mais comment ils ont pu faire ça? Mais il faut le voir aussi avec le prisme de l'époque qui n'était pas du tout le même.
Et les femmes à l'époque, comme l'expliquait le professeur Tournaire, qui a été un des médecins qui a été le plus à la pointe du combat auprès de toutes les femmes qui avaient été touchées par le Distilbène, il expliquait que les femmes, elles n'osaient même pas dire qu'elles avaient pris du Distilbène, et puis leur médecin leur expliquait que c'était une rumeur. Avec nous au téléphone, nous avons Martine. Donc, Martine, bonjour.
Bonjour.
Votre maman avait pris du Distilbène. Est-ce que vous avez aussi, vous, ressenti ces difficultés à partager, à faire comprendre que vous étiez aussi, je dirais, touchée par le Distilbène, que vous êtes quelque part une victime, et que votre maman l'était aussi?
La première personne dans le déni, c'était ma propre mère, qui disait que pas du tout, c'était pas vrai. Donc, j'ai dû un peu mener l'enquête, parce que pour les gynécologues, c'est manifestement assez évident, rien qu'à voir la dénose vaginale qu'il y avait, c'était évident pour les gens qui savaient, et pas du tout pour ceux qui savaient pas. Donc ma mère déjà me disait que pas du tout, non, elle avait rien pris, elle savait pas, elle est toujours là-dedans, elle a 85 ans, elle dit toujours la même chose. Mais on sait que c'est faux.
Et on sait que c'est faux.
Il paraît que ma tante racontait qu'il y avait un dispositif de benne rose, un vert, un jaune. Et en fonction de la puissance du produit, et donc, manifestement, elle en a pris vraiment.
Et vous, quand avez-vous pris, je dirais, conscience, malheureusement, que vous faites partie des femmes qui étaient touchées?
Très tôt, parce que, mais je ne sais plus très bien comment, très tôt, je crois que c'est grâce à Michel Tournaire, dont j'ai fait partie de sa cohorte, c'est lui qui l'a dit tout de suite, sinon je ne l'aurais jamais su, je pense, comme beaucoup de femmes qui n'auraient jamais rien su. Mais en fait, il y en avait plein de ma génération. On en connaissait plein qui faisaient des fausses couches sur fausses couches. Maintenant, on n'en connaît plus parce qu'elles ne sont plus vraiment en âge de procréer.
Alors, ce qui est nouveau, ce qui va être nouveau à l'époque, c'est que les familles vont se réunir, vont commencer à se faire entendre, et elles vont agir devant les tribunaux. C'était une des premières actions en santé publique qui apparaît. Les actions se poursuivent devant les tribunaux, donc, et le 24 septembre 2009 arrive une décision importante de la Cour de cassation. Donc là, on est déjà à plusieurs années de procédure. Il y a la Cour de cassation rend deux arrêts ce jour-là. Elle explique que c'est aux laboratoires concernés, donc c'est à UCB Pharma et Novartis, de prouver que leur produit n'est pas la cause du préjudice qu'ont subi ces femmes. Alors c'est plus aux patients, je dirais victimes, de démontrer qu'il y a une causalité. Ce jugement marque un véritable tournant. Bonjour Christophe Hénin. Vous êtes donc avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialisé en droit médical et pharmaceutique. Est-ce qu'on assiste bien à ce moment-là à un événement important, à un renversement de la charge de la preuve ?
Oui, mais de façon assez limitée et dans un contexte historique tout à fait spécifique, celui du Distilbène. Rappelons aujourd'hui, et on est dans le régime nouveau pour l'opposer au régime ancien, que depuis le 30 juillet 1988, les patients, les patientes, les victimes doivent prouver le dommage qu'ils ont subi, bien évidemment, le défaut du médicament, donc ils doivent le prouver normalement, ainsi que le lien de causalité entre les deux. Et à ce régime nouveau s'oppose un régime ancien qui s'appliquait avant le 30 juillet 1988, en application des articles 147, la responsabilité contractuelle entre le labo et le patient, ou 1382, la responsabilité délictuelle, il y a une faute entre le labo et le patient également. Et dans ce cadre-là, c'est uniquement dans ce cadre-là que s'applique ce renversement de la charge de la preuve.
Ça reste assez limité, en fait. On peut pas dire que ça a fait jurisprudence.
Pas du tout. Ça s'applique dans le régime ancien. Pourquoi ? Parce que les dommages, soit sont nés avant le 30 juillet 1988, applicabilité du régime nouveau, soit parce qu'ils y sont rattachables. Alors, il y a eu un étirement aussi jurisprudentiel grâce au préjudice transgénérationnel. Le professeur nous disait tout à l'heure qu'on est à la deuxième, troisième génération, mais dont la naissance est bien avant 1988. Donc, cette novation, en quelque sorte, est extrêmement cantonnée dans le temps et ne s'applique qu'à des dommages rattachables avant le 30 juillet 1988 ou pour d'autres médicaments si des dommages pouvaient encore être appliqués à l'époque.
Alors, est-ce qu'on a vu justement d'autres actions judiciaires pour lesquelles cette question a été soulevée et ce changement en fait de la charge de la preuve a été effectivement constaté ?
Alors non.
Non. Ça a été, donc c'est un cas unique.
C'est pas sans que d'autres avocats aient pu essayer de tirer parti de cette jurisprudence, mais elle est écartée aujourd'hui au profit d'un régime nouveau qui est extrêmement clair du point de vue de la preuve.
À l'époque, il n'y avait pas de class action, ce qu'on appelle les actions de groupe.
Alors non, tout simplement parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas en France, puisque le régime de l'action de groupe est né en 2016. Hein, c'est une loi de 2016 qui est particulièrement, disent les associations de patients, les associations de consommateurs, extrêmement inefficace parce que les conditions de recevabilité sont extrêmement strictes. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a 21 actions de class action dans tout les secteurs économiques confondus et deux actions simplement au niveau de la santé et du médicament.
Et dans le cas du Distilbène, on ne peut pas reprendre cette affaire avec une action de groupe, par exemple ?
Alors, les associations Distilbène, qui défendent les patients, s'en sont préoccupées, mais l'ont écarté compte tenu justement des conditions de recevabilité trop étroites. Alors, simplement, si je puis ajouter, aujourd'hui, le législateur s'en est emparé. Il y a eu en 2020 un rapport de l'Assemblée nationale qui a constaté cette inefficacité. Et vous avez depuis le 15 décembre 2022 une proposition de loi qui est en cours de discussion pour élargir justement les possibilités d'actionner la class action.
Comme vous l'avez soulevé, c'est la question de la causalité reste importante. Pour qu'il y ait un lien de causalité, il faut une expertise. Et cette expertise, elle va jouer un rôle clé. dans pour les laboratoires, chaque plainte qui leur arrive entraîne effectivement une expertise. Donc ils disent OK, on reçoit votre plainte. Leurs avocats demandent des expertises. Il y a des contre-expertises. Il faut rechercher si le dystilben est la seule cause du handicap. Donc tout ça prend du temps. Professeur Philippe de Ruelle, on voit bien dans cette question d'expertise qui est centrale. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième génération. Est-ce qu'on peut encore mener ces expertises? À quoi servent-elles et sur quelle base ces expertises peuvent-elles être menées, je dirais, 40 ans après la commission des faits?
C'est très, très, très difficile. Alors, en théorie, elles peuvent être menées, évidemment. Mais la difficulté, c'est de retrouver le patient princeps, c'est-à-dire la première prescription de dystilben 30 ou 40 ans après. C'est extrêmement, extrêmement compliqué. On n'a pas toujours de traces du dossier médical. Il y a souvent... C'était déjà compliqué de la mère à la grand-mère, si je puis m'exprimer ainsi, c'était pas si simple que ça. Mais alors aujourd'hui, l'arrière-grand-mère qui a l'information ou qui s'en souvient ou qu'on retrouve, c'est franchement difficile parce qu'il y a à la fois une perte mémorielle qui est inévitable et au-delà de cette perte mémorielle orale, il y a aussi la perte des informations parce que on n'a plus forcément les dossiers de ces femmes-là qui ont été égarées, les hôpitaux ont changé, ils ont parfois été détruits. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
Est-ce que vous pensez que justement qu'il y a une quatrième génération qui peut arriver? Est-ce qu'on connaît les risques pour cette nouvelle génération?
Alors, ce qu'il faudrait qu'on comprenne déjà, c'est quel est le mécanisme. Au départ, on savait que le médicament avait une action directe sur la fabrication du bébé, qu'il soit petit garçon ou petite fille. Il y a une action directe du dystilben, de l'œstrogène, sur les gonades, sur l'utérus, sur les ovaires, sur le pénis, avec des hypospades, c'est-à-dire une anomalie de formation du trou où le petit garçon fait pipi. Donc là, il y avait vraiment un effet direct. Le fait qu'il y ait une transmission générationnelle, eh bien, on se dit que probablement là, c'est un rôle de l'épigénétique. En fait, l'épigénétique, c'est tout ce qu'il y a autour de nos gènes et qui font qu'ils vont ou pas s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et cette transmission intergénérationnelle, elle a d'abord été démontrée chez la souris, chez les animaux, puis ensuite elle a été retrouvée chez l'être humain. Alors on voit bien qu'aujourd'hui, elle s'atténue avec le temps. Alors est-ce qu'elle s'atténue avec le temps parce qu'il y a aussi des mécanismes de compensation épigénétique pour lutter contre l'effet négatif du médicament qui a été ancien? Ça, c'est une première notion. Donc, c'est vrai que la deuxième génération a été plus grave que ne l'est la troisième, et probablement que s'il y avait une quatrième génération, elle sera moins grave que la troisième, a priori, j'en sais rien, puisque aujourd'hui, on n'a pas ces données-là, et puisque ces femmes sont seulement des jeunes femmes là qui vont, entre guillemets, arriver en âge de procréer ou qui sont tout juste en âge de procréer.
Alors ces femmes aujourd'hui justement qui sont concernées, qui sont encore inquiètes, elles continuent, les actions judiciaires continuent, les expertises continuent. Et j'ai envie de vous demander, Maître Christophe Hénin, pourquoi par exemple il n'y avait pas de dispositif spécial d'indemnisation, parce que tout cela aurait peut-être permis, je dirais, d'éviter toutes ces procédures, ces expertises. Une famille me disait que les expertises, elles en étaient à presque aujourd'hui à plus de 20 000 euros, 25 000 euros de frais. De frais d'avocat et de frais d'expertise, ça durait depuis des années. Il n'y a pas de dispositif spécial d'indemnisation comme il existait pour d'autres affaires?
Bon, alors, il y a deux questions dans ce que vous venez de me poser, et où le coût est toujours très important. Le coût des procédures judiciaires, il est toujours un enjeu réel du litige. Tout à l'heure, vous me posiez la question sur les class action, précisément, le coût de la class action aussi est quelque chose qui rebute les regroupements de patients. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la proposition de loi, on propose à l'État de prendre en tout ou partie la charge de ces coûts de procédure dans les modifications éventuellement à venir prochainement. Le deuxième point, normalement, ce sont quand même des actions conjointes, si ce n'est pas la class action, où les avocats regroupent de façon volumétrique dans ce genre de préjudice tous les patients pour un moindre coût. Alors, il y a peut-être des avocats plus indélicats qui prennent l'avantage sur ces procédures pour facturer probablement un peu plus. Mais normalement, face à cette volumétrie, le coût devrait rester modique. Et enfin, vous avez les procédures de la loi de 2002, des commissions de conciliation, qui permettent sans autre coût, même en l'absence d'avocat, aux patients d'aller rechercher une indemnisation. Alors maintenant...
Le dispositif d'indemnisation.
Voilà, ça c'est... Le dispositif d'indemnisation, alors, aux Pays-Bas, je crois, dans les années... en 1980 ou 1981, c'est le premier État qui a... précisément dans l'affaire du Distilbène, monter ses fonds d'indemnisation. Alors en France, on n'est pas trop habitué à ça. On l'a connu pour le Mediator, on l'a connu pour la Dépakine. Alors je dirais que le point commun entre ces deux fonds d'indemnisation, c'est la nationalité du laboratoire. On n'est peut-être pas enclin à faire la même chose lorsque le laboratoire a une nationalité. En tout cas, les deux laboratoires de l'affaire Distilbène ont des nationalités différentes que la France. Nous, on l'a eu deux fois pour deux laboratoires français. Et je crois même qu'à l'époque, on ne s'est absolument pas posé la question sur cette possibilité de fonds d'indemnisation en France.
Alors nous sommes aujourd'hui, je disais, il y a 40 ans que cette affaire dure. Nous sommes toujours avec Martine. Martine, 40 ans après, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la question du Distilbène est plus présente, on connaît mieux, vous avez le sentiment que vous êtes un peu plus écouté que vous ne l'avez été il y a quelques années?
Moi, je trouve pas du tout. Enfin, moi, j'ai jamais participé à ni demander indemnisation ni rien. J'ai jamais voulu participer à tout ça parce que ça m'angoissait à titre personnel. Donc, c'est pas du tout un jugement de valeur. Je l'ai jamais fait. Par contre, ce qui me fascine le plus, c'est à quel point, à part sur le plan juridique, sur le plan scientifique, personne ne s'intéresse à nous, quoi.
Voilà, la justice avance, mais sur le plan scientifique, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de nouveau.
Personne ne sait, on ne sait rien. Alors, tantôt, on reçoit des trucs disant qu'il y a plus de cancer du sein, puis tantôt, ce n'est pas vrai. Personne ne sait où j'existe, ni si je suis quelque part, s'il y a quelque chose à faire de particulier. Par exemple, les frottis chez les dames Distilbène, comme il y a de l'adénose, ne sont pas très performants. Donc, il y a la moitié des gynécologues qui disent que ça ne sert à rien d'en faire, d'autres qui disent qu'il faut en faire. Et je ne pensais pas à quel point on est nulle part. On n'est nulle part, on n'intéresse personne. Enfin,
c'est presque une affaire oubliée. Professeur Dorwell, vous avez aussi ce sentiment que la science un petit peu s'est arrêtée sur le Distilbène?
Oui, complètement. C'est de moins en moins enseigné et pourtant, ça devient un peu comme une maladie orpheline parce que le nombre de situations est devenu plus faible et est devenu très affaire de grands spécialistes. Et en effet, c'est quelque chose qui est plus tellement enseigné, alors qu'en réalité, il y a encore, même si c'est la fin de la comète, si je puis m'exprimer ainsi, il y a encore des femmes qui ont besoin de soins à cause d'une prise de Distilbène la plupart du temps chez leur grand-mère.
Ne pas relâcher la vigilance. Martine, aujourd'hui, quelles sont justement l'urgence pour vous la plus importante? C'est continuer à informer, continuer à expliquer?
Pour moi, j'aimerais bien savoir à quelle sauce je dois être mangée. De temps en temps, il y a des gens, on reçoit des trucs disant oui, alors j'ai une copine de copine qui a eu un cancer du côlon et qui dit « Ah, c'est sûrement lié au Distilbène. Personne ne sait rien, personne ne nous dit rien et donc je ne sais pas, je trouve ça… » Alors, il se trouve que moi, je n'ai pas réussi à me reproduire en direct, donc j'ai adopté un petit garçon, donc je suis complètement libérée de ce lien génétique avec mon fils. Et je dois te dire que parfois ça me soulage quand j'entends des trucs. Et du coup, mais c'est vrai que quand même, outre avoir eu des lésions du col, qui ont entraîné une hystérectomie, plein de choses qui auraient pu, aujourd'hui, je pense que si ça se passerait aujourd'hui, on serait indemnisé, on serait bien beaucoup plus pris en charge.
Beaucoup plus accompagné. Ce que vous regrettez aujourd'hui, effectivement, c'est ce manque d'accompagnement. Docteur Martine Pérez, est-ce que ça justement, il y a ce manque d'accompagnement encore pour les victimes du Distilbène? Est-ce qu'on retrouve un petit peu ce manque d'accompagnement aujourd'hui, de manière générale, dans toutes les affaires qui impliquent des questions de santé et des questions de médicaments?
Alors, d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, l'affaire du Distilbène, elle a commencé à un moment donné où on pensait que la médecine était triomphante et puis que s'il y avait un peu de casse, ben, c'était pas très grave. Et ça n'a jamais été une affaire ultra médiatisée. Il a fallu attendre l'affaire du sang contaminé pour que les victimes prennent la parole, pour qu'on les médiatise. Et ce qu'il y a eu aussi dans un certain nombre d'affaires, c'est qu'il y a eu des journalistes emblématiques qui se sont saisis d'un dossier et qui en ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On n'a pas eu ce fonctionnement dans l'affaire du Distilbène. C'était une autre époque, c'était les années 70. L'affaire du sang contaminé arrive dans les années 85. Et puis après, il y a eu l'affaire de la vache folle. On a hyper médiatisé. Moi, à l'époque, j'étais journaliste au Figaro et on parlait tous les jours du sang contaminé, de l'affaire de la vache folle, de l'histoire de l'hormone de croissance. Il y a eu des associations très puissantes qui se sont constituées. Et puis, vous savez, les pouvoirs publics n'aiment pas spécialement que l'on monte en épingle, que l'on médiatise les affaires parce qu'ils se sentent mis en cause, les ministres de la Santé, quand il y a des affaires qui deviennent des scandales sanitaires, eh bien, se sentent mis sur la touche, peuvent démissionner. Il y a eu toutes sortes de démissions de ministres dans ce cadre-là, ou de mise en cause en tout cas. Et donc, il n'y a pas, rien de tel ne s'est produit avec l'affaire du Distilbène. Peut-être l'affaire était complexe sur le plan scientifique. Elle s'est produite à une époque où eh bien, il n'y avait pas de pharmacovigilance. Elle a beaucoup traîné dans le temps, parce qu'on pourrait dire aussi, en 71, les États-Unis interdisent le Distilbène aux femmes enceintes. Il faut attendre 6 ans plus tard pour que la France le fasse.
C'est quand même un énorme scandale.
C'est scandaleux. C'est un énorme scandale. Par exemple, dans l'histoire du sang contaminé, il y a eu quelques mois de décalage entre l'interdiction des produits pour hémophiles non chauffés et en France. On a considéré que c'était un scandale majeur. Pour le Distilbène, on a attendu 6 ans. Toutes les données existaient dans la littérature scientifique. Il y a eu des études, des publications scientifiques aux États-Unis dès 70 qui montraient que c'était un médicament dangereux. Il a fallu attendre très très longtemps avant que ça soit interdit en France.
Christophe Hélin.
Oui, je pense pour essayer de synthétiser un peu ce que viennent de dire tout le monde, c'est que on est frappé par la lenteur un peu dans ce dossier. C'est pire que le roman de Stefan Zweig sur la lenteur. Comme le disait Martine, de 1938, et je parle sous le contrôle du professeur Deruel, on s'interrogeait sur les effets cancérigènes des œstrogènes de synthèse. Après, vous l'avez dit, dès 1950-1953 aux États-Unis, il y a des publications scientifiques sur la nocivité et surtout l'inefficacité dans les indications du Distilbène. Alors après, en 1973, l'AMM est retirée en Angleterre. On attend 6 ans en France pour avoir un effet identique. Donc on le voit, cette affaire est emblématique, on l'a dit, par sa lenteur.
Alors, elle est emblématique par sa lenteur, et puis elle continue toujours. J'ai une question que vous posez en tant qu'avocat. C'est effectivement, est-ce que aujourd'hui les affaires durent toujours? Pourquoi le laboratoire continue, je dirais, à être dans cette disposition, je dirais, judiciaire? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire, bon, on va essayer de entre guillemets, de déposer les armes?
Mais comment? J'allais dire, le laboratoire est attaqué, j'allais dire, comme tout prévenu. Il a le droit à se défendre, qu'il fût-il un groupe pharmaceutique, de bonne ou de mauvaise foi, financièrement heureux ou financièrement malheureux. Il a le droit de se défendre. Alors après, sa sanction, c'est le signal réputationnel extrêmement négatif, qui est déstructurant, qui est difficile à se libérer, comme une marque indélébile dont il doit se satisfaire ou en être malheureux, pour le coup, pendant des dizaines d'années.
Est-ce qu'il peut y avoir une prescription sur ces actions?
Alors oui, elle existe en droit français, sur ce régime ancien. C'est l'article 2226 du Code civil, c'est 10 ans. À compter de la consolidation des dommages.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une nouvelle affaire, peut-être Distilbène ou de même type, peut encore survenir?
Alors, la réponse, ce sera oui et non. C'est-à-dire, oui, il est toujours possible qu'un médicament ait des effets sur la descendance et qu'on puisse sous-estimer ces effets et que finalement, avec l'utilisation, ils apparaissent et soient extrêmement graves. En théorie, c'est toujours possible.
Mais il y a des effets transgénérationnels, c'est cela.
Transgénérationnels, ça c'est possible. Des effets, il y a parfois un médicament a des effets qui ne sont pas connus. Et une fois qu'on l'utilisera sur une population plus large, on les verra apparaître. Non, parce que pas de cette ampleur et pas de cette façon. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, ça a bien été dit. Maintenant, on a des systèmes de pharmacovigilance qui surveillent énormément nos pratiques et les conséquences, et en particulier sur la question des malformations. Pas de cette ampleur, parce que il faut revenir aussi à l'époque. Les médecins français lisent peu la littérature internationale et la littérature anglaise. C'est ça aussi qui fait que le temps a été long. Aujourd'hui, on est inondé d'informations sans arrêt qui viennent des pays outre-Manche, mais aussi outre-Atlantique. Et il y a un raccourcissement du temps, donc on ne pourrait plus avoir une affaire aussi longue. Et puis il y a une énorme prudence des agences du médicament. Aujourd'hui, dès qu'on a la moindre inquiétude, il y a une alerte qui est lancée et une mise en garde qui fait que, je l'espère en tout cas, on a beaucoup appris, au sens très large, on a beaucoup appris de nos erreurs passées. Donc je pense qu'on a toujours un potentiel de survenue d'anomalies d'un médicament, mais grâce au système de pharmacovigilance et grâce aux réseaux sociaux, aux réseaux qui existent, aux réseaux professionnels, ça ne pourrait plus être aussi lamentable que ce que ça a été.
Christophe Hénin, vous partagez ce point de vue ?
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit depuis 1995, donc c'est pas si ancien que ça en réalité. L'Europe a obligé les laboratoires à adopter un système de pharmacovigilance, donc à récolter en coordination avec les autorités de santé tous les effets indésirables, de publier tous les 6 mois des rapports. Donc il est peu probable qu'on puisse faire face un jour à Distilbène bis ou like. Il n'en demeure pas moins que malgré ces systèmes, et on a pu le voir, il y a un certain nombre, très rare, mais de laboratoires qui peuvent toujours s'abstraire de ces obligations de pharmacovigilance. Donc il faut qu'il y ait toujours un gendarme, une autorité de santé qui soit elle-même extrêmement vigilante.
Gardons cette vigilance, n'est-ce pas, Martine Pérez ?
Oui, de toute façon, c'est difficile d'imaginer ce qui peut se passer à l'avenir. Néanmoins, ce médicament, aujourd'hui, le Distilbène, n'aurait pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication chez les femmes enceintes, parce qu'on aurait eu des essais cliniques qui auraient montré que ce médicament ne servait strictement à rien. Et puis aussi, aujourd'hui, l'information circule de manière complètement différente.
Eh bien écoutez, merci à vous trois, merci Christophe Hénin, merci docteur Martine Pérez, merci professeur Philippe Truel, merci Martine pour votre témoignage. Voilà, ce podcast a apporté des informations qui vont être utiles pour beaucoup de personnes, et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.